Mener une réflexion intellectuelle sur la notion de tolérance dans un débat sur la création artistique comme celui de ce colloque induit nécessairement le critique que je suis à la double tentation d'inscrire cette problématique dans le cadre du contexte actuel de la société contemporaine, rappelant ainsi les conflits d'ordre idéologique qui ont transfiguré la scène internationale et politique ces dernières années et depuis quelques mois. Mais demeurer dans cette perspective serait ancrer la réflexion sur une perspective typiquement sociologique et politique. On occulterait alors la dimension immanente du texte littéraire à travers cet ancrage qui privilégie d'une certaine manière le caractère extrinsèque de la littérature. Jacques Dubois, dans l'institution de la littérature, nous prémunit déjà contre ce type d'écueil quand il nous rappelle la double articulation du langage du discours littéraire qui est soumis à des contraintes à la fois extrinsèques et intrinsèques. Replacer alors la thématique de la tolérance dans ce nouveau contexte herméneutique oriente nécessairement la réflexion vers une nouvelle perspective qui nous oblige à inscrire cette problématique dans le champ de la littérature. Cette inscription permet d'appréhender le circuit de la production littéraire en termes de lutte et de jeu d'influence, comme nous le rappelle Pierre Bourdieu dans Les règles de l'art. On se souvient des différentes crises d'ordre théorique et esthétique qui ont traversé cet univers. La querelle des anciennes et des modernes, le jugement des avant-gardes, le foisonnement d'écoles et de mouvements de pensée qui laissent croire que l'univers littéraire est un espace de crise. Les écrivains s'emploient à réguler les tensions qui existent entre les différentes positions d'écriture et c'est dans cette mouvance qu'apparaissent les écritures migrantes, une dénomination qui nous semble quelque peu problématique, comme l'attestent plusieurs critiques, car ce vocable enferme des germes d'une forme de ghettoisation et d'ethnicité, comme l'a signifié une majeure partie des écrivains qui ont été enfermés dans ce registre. Mais le thème nous semble approprié dans la mesure où il a aussi une connotation esthétique. Si l'on repense à la définition que propose Pierre Nerveux dans l'écologie du réel, il suggérait effectivement qu'il faille insister sur le mouvement, la dérive, les croisements multiples que suscite l'expérience de l'exil. Immigrant est un mot à teneur socioculturelle alors que migrant a l'avantage de pointer déjà vers une pratique esthétique. Le terme « écriture migrante » qui est apparu pour la première fois en 1986 dans la revue Littéraire Vice Versa est une expression créée par le néo-québécois Bérod Auriol. Ce mot est ainsi servi de prétexte pour caractériser le nouveau paysage littéraire d'une littérature qui avait été longtemps enfermée sous l'égide du monolithisme et le collectivisme. Le terme « migrant » avait une valeur de distinction dans la mesure où il servait à opposer deux modes de pratique scripturale à l'intérieur d'un même système qui montrait les signes d'une tension manifeste entre les écrivains québécois de souche et les écrivains immigrants. En effet, les ouvrages comme « L'arpenteur » et « Le navigateur » de Monique Delarue et bien d'autres, notamment « Ces étrangers de dedans » de Clément Moisson ou « Passeurs culturels » de Suzanne Giguère, témoignent de cette lutte en présence au sein de l'espace littéraire québécois où les écrivains immigrants, à travers des stratégies d'écriture, négocient leur positionnement au sein de l'institution littéraire. Nous avons ainsi choisi d'analyser la problématique de la tolérance dans le roman de trois écrivaines migrantes dans le cadre de la présente communication. Tous ces textes s'inscrivent dans cette nouvelle mouvance de décloisonnement qui détermine de plus en plus la littérature québécoise. Il s'agit alors de percevoir à travers l'articulation des textes comment les écrivains négocient un dialogue interculturel dans un contexte d'opposition. L'immobilisme identitaire qui caractérise l'espace littéraire de la littérature québécoise a été théorisé dans l'ouvrage critique de Clément Moisson en ces termes. L'unique culturel est le règne de la culture dominante et de son emprise sur tout ce qui arrive de l'extérieur, s'y joint ou s'y accroche. Dans ce sens, les voies culturelles d'origine et celles qui viennent d'ailleurs sont à l'unisson. C'est l'ère de l'assimilation, ou mieux celle où les écrivains nouvellement arrivés dans le paysage littéraire intègrent harmonieusement l'institution, adoptent les règles, les normes en usage pour l'écriture, les genres, les choix de carrière littéraire. Les écrivains de cette première époque n'apportent pas avec eux des formes, des mouvements ou des écritures inconnues du milieu québécois. Ils confortent plutôt des tendances vers le renforcement des institutions littéraires. Comme on peut le lire au travers de l'assertion de Clément Moisson, cet immobilisme instaurait une distance entre la culture québécoise et celle des immigrants au sein d'un même espace. L'uniculturel va procéder par une dilution des marques de l'altérité qui témoigne de la différence identitaire pour instaurer un discours monologique qui reproduit en son sein les schèmes d'une seule culture, celle de la culture dominante. Cette orientation du discours social vers une seule perspective culturelle aura pour conséquence l'émergence au sein du social d'individus déracinés et aliénés culturellement. Yin Shen dans les lettres chinoises, Abla Fao dans le bonheur à la queue glissante et Marie-Céline Agnan dans la dos de Sahara répercutent dans leur roman cette loi de clôture qui a déterminé l'espace de la scène littéraire québécoise à un moment donné de son histoire. Les personnages reproduisent à travers leur comportement la structure du système. Yin Shen, par exemple, dans les lettres chinoises, crée deux personnages iconoclastes. Le caractère atypique de ces personnages est à lire avec la relation qui s'établit avec la nouvelle terre d'accueil. Dès leur première correspondance avec leur parenté qu'ils ont laissée en Chine, Yuan ou Dali, qui ont immigré pour le Canada, ne cessent de s'extasier sur leur nouvel environnement, qu'ils connaissent à peine. L'univers montréalais dans lequel ils vivent désormais est accueilli avec beaucoup d'entrain. Tout est décrit sous le mode féerique, comme on peut l'observer dans cette lettre que Yuan a écrite à sa fiancée Zaza qui est restée en Chine. Je cite « Si cela ne suffit pas de te consoler, pense encore que la lune d'ici est plus belle que celle de notre pays. Elle est plus grosse et plus claire. Elle a l'air en bonne santé, en bonne forme. Maman, elle comprendra très bien que c'est important pour moi au-dessus de ma tête, une lune en bonne santé. J'étais autrefois inquiétée par cette pâleur, cette fragilité de notre lune qui souvent assombrit par les nuages à se trop transformer en eau, à tomber du ciel et à mourir sous nos pieds. Les différentes contraintes des sociétés occidentales qui handicapent le plus souvent la plupart des immigrés sont valorisées. Yuan ou Dali ne se plaignent pas de l'exiguïté de leur logement ou de l'indifférence de leurs voisins. Ils se moulent facilement aux exigences du nouveau système. La polyvalence et le travail sous pression auxquels ils n'avaient pas été habitués jusqu'ici semblent au contraire les stimuler. Ils accueillent avec enthousiasme le fait d'étudier et de travailler parallèlement. L'immigration dans ce contexte, comme l'illustre le propos de Gisèle dans la dos de Sarah, induit nécessairement à un deuil des origines. Les cultures de départ et d'arrivée semblent ne pas pouvoir coexister. On peut le constater à travers les rapports conflictuels qui tendent généralement la relation avec les grands-parents qui viennent de l'étranger et leurs petits-fils qui sont nés en Occident dans la dos de Sarah. Les grands-parents qui viennent d'Haïti vivent de grandes situations de crise avec leurs petits-enfants. Cette situation s'explique par le fait qu'ils appartiennent à des univers culturels différents qui ne partagent pas les mêmes valeurs. Un personnage dans la dos de Sarah fera dans ce sens le récit du calvaire que les enfants de sa fille lui font endurer. Celle-ci constitue un objet de moquerie pour ceux-ci chaque fois qu'elle s'exprime en français. Ces derniers n'hésitent pas à la tourner en dérision en faisant des parodies sur son expression. Les gestes de compassion et d'affectivité semblent ainsi céder la place à l'indifférence et même à la violence verbale. Pour s'intégrer dans la nouvelle terre, l'aliénation devient le passage inéluctable pour pacifier les relations. Yuan, Dali et Gisèle semblent l'avoir compris. Désormais, ceux-ci ne s'expriment qu'à travers le langage et par le regard de l'Occident. On comprend ici dans ce sens que la culture d'origine est absorbée par la culture d'accueil. Cette absorption se lit par exemple dans le discours de Yuan par une forme de rabaissement de la culture chinoise qui frise même une forme de reniement. En exaltant la lune du Canada et en lui conférant un pouvoir de guérison comparativement à la lune chinoise qui semble-t-il le rendait malade, Yuan, par ce langage métaphorique, diminue son pays d'origine et incite sa fiancée à le quitter comme lui. Cette distance produit forcément une déculturation. Effectivement, à travers cette posture, la culture d'origine est vouée à l'étiolement. Yuan, Dali ou Gisèle se présentent comme des personnages déracinés. Ce déracinement se lie par le masque culturel qu'ils abordent et qui instaure une barrière entre eux et leurs proches. Dans la dos de Sarah, par exemple, la narratrice montre le malaise qui est engendré par ces distorsions culturelles. Mariana a de la difficulté à communiquer avec sa fille, Gisèle. Leur discussion se solde par l'échec. Ceci se comprend aisément par l'absence de coopération qui teint les échanges interdiscursifs. Les référents culturels semblent régis sous un rapport de disjonction. Dali expliquait déjà à Zaza dans les lettres chinoises que les référents culturels du Canada contrastent avec ceux de la Chine. Ainsi, par exemple, les notions de droit et de devoir ne sont pas perçues de la même manière. « Tu dois venir, Zaza, tu ne m'en veux pas de te parler de devoir, n'est-ce pas ? Nous, toi et moi, nous comprenons parfaitement ce que veut dire devoir. Mais il arrive souvent que nous ne trouvions pas dans la langue française un concept équivalent qui exprimerait ce qui nous paraît évident en chinois. » Tu seras donc étonné de voir, en arrivant à Montréal, que le mot « devoir » n'est pas aussi apprécié que chez nous. Quand tu sens une grande envie de rendre un service à ton ami, tu auras mille façons de le dire. Mais ne dis jamais « je dois le faire pour toi ». car l'autre répliquera immanquablement, tu ne dois pas le faire, en appuyant avec mécontentement sur doigt. Autrement, tu risquerais de perdre une amitié. Pour être intégré dans la nouvelle société, Yuan comprend qu'il doit adopter la vision du monde qui la détermine. Ce déplacement culturel implique un renoncement de son héritage culturel. On va ainsi observer dans le texte que tous ces personnages déracinés vont se débarrasser progressivement de leur marque identitaire primitive. Dali, par exemple, dans les lettres chinoises, va occulter dans son comportement les notions de pudeur, de bienséance, de fidélité, de loyauté que lui avait enseigné son maître spirituel en Chine. Elle se livre sans y avoir mûrement réfléchi dans une relation amoureuse avec un immigré qui est pourtant déjà engagé dans une relation avec une autre chinoise. L'euphorie de l'univers qui l'environne l'absorbe au point de brouiller sa clairvoyance. Sa copine Zaza lui fera d'ailleurs remarquer la légèreté de ses mœurs et l'imprudence de ses actes. Cette métamorphose du personnage s'opère donc au détriment de son passé culturel. Mariana, dans la dose de Sarah, vit avec beaucoup de douleur cette dépossession de sa fille. L'aliénation culturelle de cette dernière crée une distance entre elle et sa mère. Les valeurs culturelles que lui avait enseignées sa mère sont phagocytées par celles de la nouvelle société et cela engendre un déplacement du regard. Gisèle considère sa mère comme une étrangère. On perçoit encore cette réfraction à travers les postures langagières qu'elle adopte à l'endroit de cette dernière. Leurs échanges discursifs sont mus par la violence verbale, l'agressivité. Par cette posture, Gisèle renie symboliquement sa culture d'origine. On peut déplorer dans ce sens, comme l'observe Mariana ou Zaza, l'étiolement et la disparition des valeurs ancestrales qui ont pourtant une dimension constructive, comme le souligne une amie de Mariana. Mais laisse-moi te dire, Mia, moi je suis reconnaissante à cette misère. C'est elle qui a fait de moi un être humain et non une machine sans cœur et sans âme comme Denise. Cette déculturation des personnages traduit symboliquement une communication unidirectionnelle et une absence de coopération entre les cultures de départ et celles d'arrivée. Cette posture discursive occulte parallèlement toutes les marques de l'altérité. Dans ce sens, on peut dire que les écrivaines reproduisent par le mode de la fiction la loi de clôture qui a régi l'espace de la scène littéraire québécoise. Car nous rappelle Robert Escapite, je le cite, le caractère collectif de la création littéraire provient du fait que les structures de l'univers de l'œuvre sont homologues aux structures mentales de certains groupes sociaux ou en relation intelligible avec elles. Dans ce sillage, le texte se rétrécit sur un seul espace, la fiction se cristallise alors sur ce pôle d'attraction. On peut le constater dans le roman à travers la surenchère du discours sur l'Occident qui monopolise l'univers de la parole. La parole des personnages est habitée par le pays d'accueil, mais cet envahissement de l'univers discursif par la parole occidentale va être saisi par l'interlocutrice Zaza comme une forme d'harcèlement. Elle va créer un nouvel espace pour élargir le dialogue sur d'autres horizons. Cette stratégie lui permet d'insérer l'univers chinois dans le dialogue. Par cet acte, Zaza s'inscrit dans l'univers de la parole et par là même, elle amène ses interlocuteurs à une prise de conscience de son identité. On peut donc dire que la mobilité textuelle qui caractérise l'esthétique des écritures migrantes est une forme de construction de l'altérité. Le texte migrant se déplace vers une multiplicité d'espaces et fait résonner une polyphonie énonciative qui dit la pluralité du monde. On peut le constater à travers les allers-retours des personnages qui oscillent entre leur terre d'accueil et leur pays d'origine. C'est par exemple le cas de Dounia dans Le Bonheur à la queue glissante d'Abla Faoud. Le discours de ce personnage est une énonciation hybride qui mêle plusieurs tons, rappelant ainsi subrepticement son double ancrage à la fois canadien et libanais. Les écrivaines dénient donc toutes les formes de fermeture en créant un environnement rhizomique qui est articulé par une polyphonie énonciative à la fois canadienne, chinoise, libanaise ou haïtienne. Les textes répercutent dans ce sens un cycle de la littérature québécoise, le pluriculturel, dont Clément Moisan parle dans ses œuvres. Le pluriculturel met les voix culturelles en polyphonie. Le pluriculturel caractérise le système littéraire par une présence plus visible de voix divergentes qui s'affirment dans et en dehors de la littérature québécoise. La diversité culturelle s'affiche comme organisée, mais sans toutefois se poser comme hétérogène. Le système commence à prendre la complexité en raison de ses nécessités d'échanges et de relations nouvelles à l'intérieur du tout systémique. La rhétorique de l'uniculturel et du pluriculturel qui est ainsi fictionnalisée dans les romans instaure une dialectique dans les chances qui s'opèrent entre les personnages. Les champs discursifs entre les personnages de l'ère chinoise, par exemple, se transmuent en un jeu discursif où chacun des partenaires de la communication déjoue les prises de position de son interlocuteur en faisant ressortir d'une part les atouts de sa culture et d'autre part les aspects moins attrayants de celle de l'adversaire. Aux propos apologétiques de Yuan et Dali, qui font une sorte de marketing du Canada, Zaza oppose un discours qui fait ressortir les travers d'une société en proie à la solitude, le matérialisme. Cette réplique enclenche une démarche énonciative où chacun des interlocuteurs va essayer de défendre sa face. Ce discours bifocal qui fait résonner des voix dissonantes procède comme une stratégie discursive qui permet aux écrivaines de réévaluer chacune des cultures en présence en faisant sortir aussi bien leurs atouts que leurs limites. Cette distorsion culturelle brise le discours polémique qui régit la communication et permet ainsi d'ouvrir le dialogue vers une relation interculturelle. Zaza, malgré la réticence qu'elle affiche à l'égard du Canada, se voit dans l'obligation de s'incliner devant certaines valeurs que lui propose cette nouvelle société. Aussi acquiescera-t-elle, il me semble qu'il est moins pénible de vivre comme étranger à Montréal qu'à Shanghai. Là-bas, tu n'as pas, je crois, à payer deux fois plus cher que les autres ton billet de transport ni le logement parce que tu n'es pas citoyenne ni résidente permanente. Les étrangers à Shanghai ne sont pas aussi chanceux que toi. Cette réversibilité du texte qui s'opère ainsi à travers le discours paradoxal des personnages occulte la relation de réfraction qui s'institua auparavant entre les différentes cultures. L'ouverture de Zaza aux sollicitations de ses compatriotes Yon et Dali permet de tisser un nouveau rapport avec la culture québécoise. Cette posture d'accueil oblige nécessairement à examiner le discours de Yon et de Dali en toute objectivité. Elle réévalue de ce fait le comportement de ces derniers qu'elle jugeait jusque-là avec beaucoup de sévérité. Zaza apprécie dans ce sens la liberté d'esprit qui caractérise la société québécoise, ainsi que la joie de vivre qui a contribué à forger le caractère de Yuan et Dali d'une manière positive. Yuan et Dali sont effectivement des personnes qui assument désormais leur choix de vie. Ils sont ainsi affranchis des stéréotypes d'une tradition parfois castratrice. Ce rebondissement de Zaza favorise une réconciliation entre les différentes voies culturelles et cela engendre une réciprocité au niveau de la communication. En effet, la relation discursive qui s'institue dès lors entre les différents interlocuteurs devient transitive et cela est marqué dans les textes par les transferts culturels qui s'opèrent entre les différents actants. Yuan et Dali dans le dialogue ouvrent une passerelle à leur culture d'origine. Ils le traduisent symboliquement par la nostalgie que réveillent en eux des souvenirs de la Chine. Aussi reconnaissent-ils que dans leur parcours au Canada, ils n'ont jamais cessé de cheminer avec leur passé, dont Zaza en est l'expression. L'invitation qu'ils adressent à Zaza de venir les rejoindre au Canada prend alors un sens métaphorique. Par cet acte, Yuan et Dali voudraient concilier leur culture, leurs différentes cultures, celles du passé et celles du présent. Yuan, par exemple, reconnaît qu'il se sent fragmenté loin de la présence de Zaza. Dali, quant à elle, affirme qu'elle devrait se faire aider par les conseils spirituels de son maître chinois pour évoluer sereinement dans cette nouvelle société. Ces personnages rejoignent ainsi la pensée de Mariana dans la dos de Sarah quand elle dit « Car notre passé, c'est comme la lune, n'est-ce pas? Il nous suit, il a les yeux fixés sur nous. Il est très difficile de fuir son passé. Quoi qu'on fasse, il nous en restera toujours un peu. » L'immersion des grands-parents dans l'éducation de leurs petits-enfants dans la dos de Sarah induit à penser que les cultures de départ et celles d'arrivée sont amenées à se féconder mutuellement. Le personnage hybride ou métisse n'apparaît plus dans ce sillage comme un individu problématique, voire formaté, dans la mesure où il reproduit à travers son identité le croisement d'une multiplicité de cultures qui entrent désormais en dialogue. Mariana saisit rapidement le danger qui guette sa petite-fille Sarah aux prises avec l'éducation d'une mère déracinée. Elle s'emploie donc à redonner à sa fille un visage plus humain en lui apprenant aussi les coutumes ancestrales. À la fin du roman, ce personnage apparaît comme le plus accompli grâce à sa transversalité culturelle. Marie-Célie Agnan dénie ainsi toutes les formes de fermeture ou de décloisonnement qui frisent l'immobilisme identitaire, voire des positions extrémistes. Elle rejoint dans ce sens Yin Shen dans les lettres chinoises qui met en dialogue deux contextes culturels par la médiation des personnages. Le dialogue ouvre effectivement un espace à l'altérité et produit inéluctablement ce que Clément Moisan nomme l'arter-égotisme, c'est-à-dire une attitude fondée sur la fascination de l'autre et la volonté de le pénétrer, de le faire soi et de se faire lui. Yuan, Dali ou Zaza conjuguent ces deux perspectives qui déplacent le roman des positions monolithiques. Ces allers-retours qui oscillent entre le Canada et la Chine ou encore le Canada et Haïti dans les romans reproduisent subrepticement les facettes d'un monde qui se dit désormais au pluriel. Ce langage symbolique qui engage la communication vers le transculturel se pose ainsi comme une forme de tolérance culturelle.